Est-ce que vous avez de l'imagination ? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou, version française, pensons, version anglaise, imaginons. Aujourd'hui, Becky est là, donc ce sera la version anglaise, imaginons. Donc je vous demande de l'imagination, beaucoup d'imagination. Donc ces trois-là, ce sont des seigneurs. Bon, jusque-là, ça va, c'est réellement des seigneurs. Même dans le naturel, ça va. On a... Bon, vous avez remarqué qu'ils sont tous les trois barbus, alors c'est là qu'il vous faudra de l'imagination. En fait, ils ont une très... Alors là, vous imaginez, hein, une très longue barbe, tellement longue qu'elle s'entrelace sur la table avec des nœuds en broussailles. C'est vieux, c'est gris, c'est ça s'entremêle, enfin l'horreur totale, vous voyez. Et c'est en plus sur la table, pas ragoûtant, hein, c'est même pas hygiénique, je dirais. Et en plus, ils dorment. Ils dorment depuis longtemps, très longtemps. Alors par contre, j'ai un groupe de jeunes dynamiques, des explorateurs. Alors les explorateurs, ils explorent. Alors ils explorent, ils ont des terres nouvelles, ils veulent chercher des terres nouvelles, donc ils explorent. Ils sont très motivés, ils sont passionnés, zélés, courageux. Et il n'y a pas de filles dans les explorateurs ? Vas-y, voilà. Ah oui, quand même, il faut des exploratrices. Voilà, voilà. Donc Chloé, vaillante exploratrice, ils explorent partout, terres nouvelles, tout ça, ils explorent. Oui, allez, Elisabeth, allez, une fille. Ah non, pas encore. Donc, ils explorent. Et puis, au bout d'un moment, ils tombent en arrêt dans ce lieu bizarre. Ah, une table. Ah, une table. Alors, on va regarder quand même, tu peux délicatement, Benjamin. Alors, pareil, vous imaginez qu'il y a plein de choses intéressantes sur la table. Alors, j'ai même préparé une description. Alors, délicatement, tu enlèves. Vous imaginez, pareil, parce qu'il n'y a rien à manger en vrai. Mais c'est, vous imaginez. Alors, je vous lis, qu'est-ce qu'il y a sur cette table ? Il y a des pichets de vin, je ne vous dis pas, du vin d'Alsace, du vin de Bordeaux, du petit rosé de Provence, du vin d'Anjou, du vin de Touraine, extraordinaire, et du champagne, bien sûr. Vous avez aussi, bien sûr, du kouglouf. Vous avez des tartes, des ragoûts, des tourtes, du pain, du saumon, enfin plein de choses. Ça sent bon. Et bon, il y a tout ça sur la table. Ils sont très intéressés parce qu'ils ont très faim, les explorateurs. Donc ils regardent, ils sont très attentifs, ils regardent. Mais ce qui les ennuie, c'est qu'il y a ces trois phénomènes autour qui dorment. Et puis en plus, c'est pas bon. Ils sont un petit peu ennuyés avec ça. Ils se disent, peut-être qu'elle est magique, cette table. Peut-être que c'est dangereux ce qu'il y a sur cette table. Parce qu'on ne sait jamais. Comment ça se fait qu'ils dorment devant une table pareille ? C'est pas normal, ça. Donc, ils sont un petit peu inquiets. Mais quand même, ils sont tracassés. Puis quand même, ils ont faim. Donc, ils vont attendre. Qui c'est qui a deviné d'où ça sortait, de cette histoire ? Non. Narnia. Et vous savez quoi ? Narnia est passé hier à la télé. Le même épisode. Alors, ça. Donc, mais moi, je vais franciser parce que c'est adaptation française. Pardon, Becky, pour Swiss, Lewis. Voilà, j'adapte. Donc, version française. Donc, ils sont là, les trois seigneurs. Voilà. Les explorateurs. Et puis, alors qu'ils attendent, ils attendent, quelque chose se passe, quoi. Quelqu'un arrive. Oh, c'est une belle jeune fille qui arrive. Alors, ils le regardent, tous. Qu'est-ce qu'elle va faire, la jeune fille ? Elle va les engager à se servir. Alors là, miraculeusement, pareil, les broussailles, les cheveux, tout ça, ça a disparu. C'est tout beau, tout propre, tout impeccable. Très odorant, parfumé, magnifique. Et elle les engage à se servir. Bon, alors ils sont un petit peu... Bon, ils laissent de côté les trois parce qu'eux, ils continuent à ronfler. Hein. Mais quand même, ils se servent. Ils se régalent. Ils sont très contents. Non, touche pas. Voilà. Donc, on arrête là ma petite scénette. On en reparlera à la fin du message. Et je remercie beaucoup tous les jeunes qui sont vaillamment prêtés à ce petit jeu. Voilà. Bon, alors la jeune fille, ça c'est pas dans Narnia, hein, ça c'est une interprétation française. La jeune fille, qu'est-ce qu'elle représente ? En fait, elle donne. C'est elle qui a la clé. Elle est où ma clé ? C'est elle qui a la clé, une ancienne, très ancienne clé. C'est elle qui a la clé qui donne accès à toutes ces bonnes choses. Elle a la clé. Cette jeune fille, très belle, très avenante, très gracieuse, très souriante, s'appelle la grâce. C'est la clé. C'est la clé d'accès. Ah. Alors pourquoi il y a des seigneurs, ça je vous dirai plus tard. Pour l'instant, je laisse le mystère entier. Pourquoi les seigneurs n'ont pas profité? Bon. Donc, la grâce. La grâce, c'est essentiel. S'il n'y a pas la grâce, on ne peut rien faire. Alors, bon, la grâce, j'ai déjà fait un message dessus le 22 juillet, mais je savais qu'il y aurait une suite, et la suite, donc, c'est aujourd'hui. La grâce, vous allez me dire, c'est en Jésus, il y a la grâce. Oui, d'accord. C'est-à-dire une faveur absolument imméritée, un accès absolument gratuit à tous les trésors de Dieu. Oui, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Alors, pour comprendre mieux, pour concrétiser ce que c'est que la grâce, il y a deux, dans l'Ancien Testament, il y a deux histoires extraordinaires sur la grâce, pour bien comprendre ce que c'est. Vous avez d'abord l'histoire que tout le monde connaît, Joseph. Ses frères, ce n'était quand même pas des petits saints, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont même été, enfin vous savez tout ce qu'ils ont fait. Mais ce que je voudrais insister, c'est qu'est-ce qui leur est arrivé une fois qu'ils ont reconnu Joseph, que implicitement quand même ils se sont repentis, ils ont demandé pardon. Ils ont eu accès à tous les trésors d'Égypte. Ça c'est fabuleux. Hein. Ils ont eu accès à Goshen, la meilleure partie d'Égypte pour les troupeaux. Ils ont eu accès à la faveur de Pharaon. Ils ont eu accès à plein de choses. Est-ce qu'ils les méritaient ? Ah, sûrement pas. Alors, pas du tout, du tout. Mais ils ont eu accès quand même. Absolument gratuitement. Et puis, vous pouvez lire Genèse, la Genèse, c'est impressionnant. Pharaon leur fait un beau discours. Vous aurez la meilleure part du pays. Les richesses d'Égypte sont à vous. Enfin, c'est incroyable, cette histoire. Alors qu'ils étaient des moins que rien, quand même. Déjà, avec l'histoire Joseph, mais après Judas et Tamar. Enfin bon, il y a plein de choses. Siméon, Lévi, enfin, ils ont fait plein de choses pas possibles, les frères de Joseph. Mais ils ont eu gratuitement accès à la grâce. Alors, il y a aussi un autre passage. C'est, peut-être que c'est un peu moins connu. Ah, l'histoire de David. Alors, il faut que je me confesse devant vous. David. Ce n'était pas mon personnage préféré. Parce que, enfin, vous voyez bien pourquoi. Au moins, Joseph, lui, impeccable. Une seule femme, déjà, pour commencer. Et puis, correct toute sa vie, quoi. David, en tant que femme, j'ai du mal avec David. Enfin, j'avais du mal. Et puis, un jour, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un an, le Seigneur m'a dit, mais dis donc, moi, j'ai absolument, totalement, radicalement pardonné à David. L'histoire de Bathsheba, Uri, et tout ça. Et toi, tu te permets de porter encore un jugement sur David ? Je ne me sentais pas trop bien, là. Hein. Et il m'a dit, mais si tu continues à juger David, son personnage, son harem et tout, si tu le continues à juger, tu ne pourras pas recevoir la révélation qui est reliée au personnage de David dans la Bible. Tu ne pourras pas. Tous les trésors qui sont cachés dans l'histoire de David, ils seront fermés parce que tu juges. Voilà, bon, je me suis demandé pardon, tout ça. Donc, j'ai nettoyé un peu ma relation avec le roi David. Et puis, du coup, je vois toutes les merveilles du roi David. Et le roi David, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, il avait une alliance très, très forte avec Jonathan. C'était vraiment... Il avait, entre autres, la révélation de l'alliance. Alliance très forte avec Jonathan. Et quand Jonathan est décédé, vous savez ce qu'a fait David, hein ? Il a cherché à bénir le fils de Jonathan. Est-ce que c'est un vaillant guerrier ? Ah non, pas du tout. Mephibosheth, c'était un homme boiteux. Vous voyez, très boiteux, perclus des pieds parce qu'il était tombé quand il était petit. Enfin, pas un vaillant guerrier. Est-ce qu'il faisait quelque chose de valable dans le royaume de David ? Pas du tout. Il ne servait à rien. En fait, il ne servait à rien, ce Mephibosheth. Rien du tout. Et puis, David, le cœur de David, c'était lui manifester. Il voulait lui manifester sa bonté, sa bienveillance. Et il a cherché. Et c'est un peu comme dans le psaume 23, le bonheur et la grâce me poursuivront, me persécuteront dans le texte original. C'est vraiment, il va à la poursuite de Mephibosheth pour le faire bénéficier de sa grâce. Et à la fin de ce merveilleux chapitre, c'est dans 2 Samuel, eh bien, 2 Samuel 9, on peut le prendre peut-être, non ? 2 Samuel 9, vous avez l'histoire de Mephibosheth. J'aurais vraiment insisté parce qu'il servait, il n'avait aucun mérite personnel, il n'était pas utile, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Alors, 2 Samuel 9 nous dit, c'est une très très belle histoire, et vraiment David là a manifesté le cœur de Dieu de manière incroyable. Alors, au début du verset, du chapitre 9, verset 1, David dit, voilà, « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ? J'aimerais lui témoigner ma faveur, ma grâce, ma bonté, ma bienveillance, par amitié pour Jonathan, à cause de l'Alliance. » Et on va peut-être sauter directement après, au verset, le dernier verset, verset 13 du même chapitre. Verset 13, on peut. Il résidait à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu de la présence de Dieu, hein, Jérusalem, pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Il était dans l'intimité du roi. Et c'était absolument gratuit, juste à cause de l'alliance de Jonathan avec David. Il était estropié des deux pieds. Vous avez vu ce magnifique verset ? Il nous est présenté comme un estropié, un boiteux, un handicapé, tout ce que vous voulez. Il résidait, il demeurait dans la présence de Dieu et tous les jours, il mangeait les mets succulents de la table du roi. Et ça, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous faire comprendre, de manière un peu concrète, qu'est-ce que c'est la grâce. Tous les trésors de la table du roi sont absolument à nous. On n'a mérité rien du tout. Alors, on le sait parce que c'est dit dans la Bible, mais c'est bien d'avoir une histoire très très concrète comme celle de Méphibosheth pour nous dire « Vous êtes au bénéfice de la grâce ». Il faut vraiment que ça rentre en nous, cette histoire. On n'a rien à prouver, on n'a rien à mériter, c'est pour nous. C'est le cœur même de Dieu, c'est le cœur de Dieu de bénir et de montrer de la bienveillance. Donc on doit vraiment que ça pénètre en nous. Parce que je vais vous dire une chose, la chair, notre chair, elle déteste la grâce. Elle la hait, la grâce. C'est ça, il faut le savoir aussi. Elle la hait. Je donne un exemple très de l'actualité récente. Vous savez qu'en Belgique, il y a eu cette terrible histoire, hein, avec ces gens condamnés. Et puis, il y a une femme, vous rappelez, hein, cette femme complice, gravement complice, qui avait fait pas mal d'années de prison. Et puis, finalement, elle avait été libérée, je crois, de manière un peu prématurée, parce qu'elle s'était bien comportée. Et elle a voulu aller dans un couvent. Vous vous rappelez ? Et ça fait un tollé en Belgique. Ils ne supportaient tout simplement pas l'idée qu'elle puisse bénéficier de cette grâce. C'était insupportable pour les gens. Et je crois que, soyons honnêtes, en chacun de nous, il y a quelque chose qui est la grâce. Il a fait quelque chose, il doit payer. Voilà. Ça, c'est ancré en nous, c'est notre chair. Je crois qu'il faut déjà faire un bon diagnostic, sinon si on est dans le déni, ça ne marche pas. Le diagnostic, c'est qu'on déteste la grâce. Elle nous est insupportable. Et pour nous, et pour les autres. Ça, c'est la chair. C'est pour ça que c'est radicalement opposé à l'esprit du monde, la grâce. C'est insupportable. Est-ce qu'on peut croire que cette femme qui a maltraité des enfants au point qu'ils en sont morts, est-ce qu'on peut croire qu'elle va être bénie de Dieu, que c'est possible qu'elle coûte à tous les mets succulents de la table du roi? Est-ce que c'est possible que Dieu la comble de sa bonté? Est-ce qu'on peut l'admettre sans que ça nous révolte? Ou est-ce qu'on l'accepte parce qu'on a une certaine révélation de la grâce déjà? Où en sommes-nous par rapport à ça? Si on crie avec les loups, il faut qu'elle paye jusqu'à la fin, on n'a rien compris de la grâce. Si on la bénit, si on dit oui Seigneur, elle peut, en toi c'est possible, qu'elle soit remplie, qu'elle accède à tous les trésors de ta bonté, là on a un certain degré de révélation de la grâce. Ça va nous parler par rapport à où on en est. Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu veut nous révéler totalement sa grâce, pour nous et pour les autres. Et ça, il veut travailler nos cœurs, c'est vraiment vraiment important hein, ce qu'il veut faire. Alors, Dieu veut vraiment nous donner le meilleur à chacun de nous et aux autres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et quand on dit sauvés, c'est vraiment le grand salut. Ce n'est pas juste le petit salut, on est sauvé de l'enfer. Hein. C'est le grand. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il faut vraiment que ça rentre en nous-mêmes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est important. Alors, il y a une parabole qui a déjà été donnée. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce livre, parce qu'il est essentiel, à mon avis. Hein. Un père avait deux fils, tout le monde connaît ce livre. Hein. Ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est incontournable, quoi. Absolument incontournable. Pierre Kanga, il a une révélation, je pense qu'en France, c'est un de ceux qui a la révélation de la grâce très spéciale. Et il a disséqué ça très, très, très bien. Et par rapport à la grâce, donc il rappelle, vous savez, cette histoire du fils aîné, qui n'a rien compris à la grâce. Et il explique que l'aîné, il est coléreux, il regarde que l'histoire du mérite, il marche au mérite, il est incrédule, il est entêté, il est menteur, il est accusateur, il est meurtrier, il est injuste, et en plus il méprise le droit d'aînesse et son héritage. Il explique tout ça très bien. Mais il est foncièrement menteur. Parce que au début de Luc 15, vous voyez très bien, c'est écrit, le père leur partagea l'héritage. J'ai vérifié en grec, hein, le père leur partagea l'héritage. Ça veut dire que dès le début de la parabole, il avait une grosse part d'héritage. Et Pierre Kanga explique que comme c'est le fils aîné, il a droit, alors j'explique les pourcentages, le père a 50%, il partage donc la moitié. Il explique tout ça bibliquement, il y a des tas de preuves. L'aîné, il a la double portion, c'est-à-dire 33,33%, et le cadet a 16,66%. Il a tout ça dès le début de la parabole. Et il vient, à la fin, oser dire au père, « Dis donc, tu ne me permets même pas de me réjouir avec mes amis, comme si tu étais un pauvre mendiant. » Alors je dis ça, mais peut-être que dans l'Église, on a un peu cette mentalité. On a tout, et puis on vous pète. Bon, le Seigneur veut vraiment nous délivrer de cette mentalité de l'aîné. Mais qu'est-ce qui nous empêche alors d'accéder à la grâce ? Alors, première chose, déjà, c'est basique, hein, il y a cette belle table. Bon, l'incrédulité, c'est pas possible que ce soit pour moi. Enfin, vous voyez, ça, c'est l'incrédulité des 10 espions qui ont exploré le pays, puis ils ont dit non, non, c'est trop difficile. Parce que c'est vrai qu'il faut être violent quand même. Hein, pour accéder à tous les trésors de Dieu, il faut y aller, quoi. Donc, oui, non, c'est pas possible, tatiti, tatata. Donc, l'incrédulité, ça, c'est sûr que c'est. On ne peut pas accéder au trésor de Dieu si on est incrédule. Bon, ça, c'est une première chose. Et vous connaissez tous ces Hébreux, là, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Donc ça, c'est un grand, grand problème, l'incrédulité. Et pour le résoudre, il faut déjà être honnête avec Dieu. Seigneur, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire que tu as ça pour moi. J'ai du mal. Aide-moi. Et on s'approche de Dieu, et on le recherche et on lui demande. Et on dit, Seigneur, tu es celui qui suscite la foi selon ce qui est écrit. Donc place en moi la foi, fait grandir ma foi, bien au secours de mon incrédulité. On reconnaît humblement où on en est dans notre foi. Alors, vous savez, la foi, c'est pas en général. On peut avoir beaucoup de foi pour telle chose et pas beaucoup de foi pour autre chose. On peut avoir une grande foi pour la guérison physique et puis pas beaucoup de foi pour les finances. Il y a plein de domaines. Hein. Mais être vrai avec Dieu et dire, voilà, là, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal. J'ai du mal à croire à la restauration de mon couple. J'ai du mal à croire que mon fils prodigue va revenir. J'ai du mal. Enfin, vous voyez, être honnête avec Dieu et pas le lâcher jusqu'à ce que. C'est pour ça que je parle de cette violence. Hein. Seigneur, je ne te lâche pas. Je veux cette foi pour ce problème précis. Je veux ça. Donc, être vrai avec Dieu. Ça, c'est mon premier problème, c'est l'incrédulité. Après, comme a dit très justement, je crois que c'était Thierry, les craintes. Les craintes. Ça va me conduire où si je fais ça ? Si je suis violent ? Si je cherche du. Peut-être que j'aurai des retours de manivelle de l'ennemi, ça sera grave, ça va me faire mal. Peut-être que, vous voyez, des tas de pensées bizarres, de crainte, ou crainte des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais des choses bizarres. Vous voyez, la crainte, ça c'est un gros obstacle aussi. Hein. Et puis, alors là, le troisième, où là j'assiste lourdement, c'est ce qui s'est passé pour eux. Les trois seigneurs. Les seigneurs. Alors il y a un objet qui n'était pas sur la. Que vous n'avez pas vu, je vais le prendre. C'est ça. Alors ça, c'est le couteau de pierre. Bon, vous avez vu, il est muselé. Hein. Bon, ça, c'est de la céramique, en vrai. C'est un couteau, on va dire, le couteau de pierre. Je l'ai mis avec une muselière, hein, parce que c'est drôlement dangereux, les couteaux de céramique. Très, très, très dangereux. Je ne m'en sers jamais à la maison, tellement j'ai peur de me couper. Donc, couteau de pierre. Et les trois seigneurs, en fait, ils sont tombés dans un profond sommeil parce qu'ils ont utilisé le couteau de pierre les uns contre les autres. En fait, ils sont lancés des paroles de jugement, de condamnation, des insultes. Ils ont menacé, ils ont utilisé la menace, la condamnation, l'accusation, le jugement. Ça, c'est le couteau de pierre, celui qui a mené Jésus à la croix. Ils s'en sont servis. Et ils ont été plongés dans un profond sommeil. Et je pose une question, ça me... Comment dire, c'est dur à poser comme question, mais est-ce que l'Église de France n'est pas dans l'état des trois seigneurs ? Est-ce que toutes nos divisions intestines, depuis des siècles, protestants, catholiques, évangéliques, les jugements les uns contre les autres, les condamnations, tout ça, est-ce que ça n'a pas plongé dans une profonde léthargie ? Est-ce qu'on n'a pas noyé sous plein de poussière, de broussailles, de ronces, de malédictions, les mets succulents de la table du roi ? Dieu avait le meilleur, il a toujours le meilleur. Et puis nos églises, elles ont fait n'importe quoi. Elles ont sorti le couteau de pierre et se sont tirées les unes contre les autres. Et ça fait très mal. Et on a empêché la multitude d'accéder aux mets succulents de la grâce. Et ça, c'est dur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là, l'histoire. Le Seigneur veut un profond, profond changement de mentalité dans son peuple. Il veut qu'on renonce totalement à l'esprit d'accusation. Et vous savez, il y a trois mots pour désigner l'adversaire. Alors, vous avez un mot hébreu, Satan. Satan, ça veut dire adversaire en hébreu, hein, je pense. Après, vous avez le mot... Là, je parle en français. Hein. Vous avez le mot Lucifer, ça vient du latin, et ça veut dire porteur de lumière. Bon, initialement, il était porteur de la vraie lumière, il a chuté, et maintenant, il est porteur des fausses lumières. On en sait quelque chose dans la pensée française, les fausses lumières. Et le troisième terme, ça vient du grec, diable. Là, je voudrais insister là-dessus, parce que c'est du grec, et c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Donc, diable, vous avez le préfixe « di ». « Di », ça parle de division, séparation, rupture, vous voyez, « di ». Différence, dissymétrie, dit. Et vous avez bolès. Bolès, c'est un trait lancé. Donc, le diable, c'est exactement ça. Il lance des médisances, des calomnies, des accusations, puis paf, ça sépare. Ça, c'est exactement la tactique. Il lance des couteaux de pierre, paf, comme ça, sur les uns, sur les autres, et c'est sa tactique. Mais la bonne nouvelle, c'est Apocalypse, hein, il a été précipité, l'accusateur des frères, celui qu'ils accusaient devant le trône de Dieu jour et nuit. Et vous remarquez, c'est l'accusateur des frères. On ne parle même pas de l'accusateur du monde ou l'accusateur des pécheurs. On parle de l'accusateur des frères dans la parole d'Apocalypse. Donc ça veut dire que ce que le diable excelle à faire, c'est diviser les frères. Et en France, c'est vrai qu'il a bien réussi. Mais on veut vraiment annoncer un temps nouveau. Un temps nouveau pour l'Église de France. Parce que nous, la France, notre destinée profonde, c'est d'offrir aux nations des mets succulents. On est des très bons cuisiniers, vous le savez, hein, on est très très bons cuisiniers dans le naturel. Et on régale tout le monde dans le naturel. Les nations viennent chez nous pour se régaler, n'est-ce pas, Becky? Les Allemands, ils viennent aussi se régaler chez nous, en Alsace, voyez. On, dans le naturel, on est fait pour préparer des mets succulents pour l'étape du roi. Quand même, je vous raconte ce qui m'est arrivé pendant les vacances. J'ai rencontré des gens phénoménaux. C'était des signes d'espérance qui disaient à chaque fois, il y a une nouvelle France qui vient, ça vient. Alors j'ai rencontré d'abord une boulangère extraordinaire, toute jeune, même pas la trentaine, qui, son plaisir, sa joie, c'est d'offrir de la bonne pâtisserie à ses clients. Et elle ne le fait pas pour l'argent, je peux vous dire. Elle se lève à 3h du matin, cette boulangère, et elle fait de la pâtisserie. Et même des anciennes recettes qu'elle ressort de l'oubli, et elle les cuisine, elle les prépare à ses clients. Et c'est vraiment la joie de donner. On a rencontré cette boulangère, incroyable cette boulangère. Ah, je peux tout vous dire. Alors en plus, ça va vous faire rêver. Sa petite boutique de boulangerie est juste devant un petit port près de Toulon, vu sur les bateaux. C'est beau, hein. Et il y avait une seule table. C'était même pas un salon de thé. On a demandé, on peut quand même venir à la table. Vous n'êtes pas forcément en salon de thé. Elle a permis parce que mon papa est âgé. Elle a été très gentille. Et on était tout seuls dans sa petite boutique, là. Et on a discuté. Et puis j'ai su tout ça, qu'elle se levait à 3h du matin. Et puis c'était, elle y allait. Mais on sentait le cœur pour les gens. La passion pour la pâtisserie et la passion pour les gens. Et après, alors après, en parlant de la bonne cuisine, il y a eu mon papa. C'est vraiment là, c'est Luc 15. Hein. Mon papa, il voulait vraiment, vraiment, vraiment nous offrir un repas. Parce que moi, je voulais payer, parce que voilà, c'était bien de payer, parce qu'il fallait l'honorer et tout ça. Mon papa, il voulait tellement. D'un coup, j'ai dit, ah oui, ça, c'est Luc 15. Alors, je vais vous faire rêver de nouveau. Vous savez, on parle du chevreau dans Luc 15. Tu ne m'as même pas donné un chevreau, vous voyez. Et puis, vous rappelez ceux qui étaient là, Pierre Kranga, quand il nous a fait piocher dans le parc à chevreau. Vous vous rappelez? Il y avait ce parc à chevreau, il dit, allez, on pioche dans le parc à chevreau, on y va. Ah ben, moi, j'ai eu mon chevreau en cuisine. Et comme c'est un chevreau français, je ne vous dis pas, c'était un chevreau au champagne. Alors, vous avez de l'imagination, vous rêvez. Donc, c'était une petite place provençale, sous un ciel très, très bleu, au soleil de Provence. Une petite ville ancienne, on aurait cru que ça n'avait pas bougé depuis les années 60. Petit rosé de Provence. Alors, c'était formidable. Voilà. Donc, ça, c'était. La France est faite pour offrir des mets succulents. Alors, il faut que ça se fasse aussi dans le spirituel. Et pour ça, il faut arrêter avec nos couteaux de pierre, quoi. Hein. Pour donner accès à la plupart à ces merveilleux mets succulents. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et puis aussi qu'on arrive à se bénir les uns les autres au niveau des dénominations. Alors, toujours un signe fort aussi que j'ai vécu pendant ces vacances, juste après le petit repas sympathique sous la terrasse provençale, je me suis retrouvée dans un monastère catholique, et bon, j'y allais en touriste, appareil photo, tout ça, touriste. Et puis, c'était un monastère que j'avais connu quand j'étais jeune fille, complètement en ruine. Et puis, bon, c'est joli, des ruines, c'est sympathique, des ruines. Mais là, on a appris qu'il avait été restauré, ce monastère. Et figurez-vous, ce monastère, il y a eu 600 ans de prière et d'adoration continue, jour et nuit, dans ce monastère. De 1170 à 1792. C'était des chartreux, des gens de prière, d'adoration. Le dernier chartreux a dû fuir au moment de la Révolution, il s'est réfugié en Italie. Donc imaginez ce lieu, alors c'est un lieu extraordinaire, pareil je vous donne l'adresse, extraordinaire dans les Maures, un massif de l'arrière-pays varois, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Loin de tout, tellement loin de tout, d'ailleurs qu'on vous dit quand il y a le feu, surtout restez dans le monastère, allez pas sur les routes, c'est très dangereux. Donc vraiment loin de tout. Et puis pendant donc 600 ans il a fonctionné, et puis il y a eu 200 ans d'arrêt. 200 ans de silence. C'est un peu comme la France, hein, 200 ans de... Voilà, plus d'adoration. Et puis, il y a des femmes, dans les années 1970, par là, qui ont eu à cœur de rebâtir matériellement ce monastère, avec des dons, enfin, plein de choses. Elles ont mis en mouvement des femmes, hein, deux femmes, très amies, elles ont mis en mouvement plein de choses, elles ont rebâti le monastère. Et après, eh ben, il y a d'autres femmes qui sont venues pour la prière. Et pareil, des moniales consacrées, mais un grain de folie, quoi. Hein. Elles quittent tout, elles se mettent là... Et je peux vous les demandes affluent. Là, ils sont une trentaine. Il y avait 12 places initialement. Maintenant, ils sont 30. Ils ont dû agrandir. Alors, j'y suis allée pour visiter, quoi, pour voir comment c'était restauré. C'était bien. C'était plus des vestiges historiques. C'était vraiment restauré. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée. Alors là, c'était assez incroyable. Petite mentalité casquette touriste, vous voyez, casquette touriste. Je me suis retrouvée ambiance tabernacle. Quand c'est la fin, vous savez, comme vendredi soir, adoration, gloire, tout ça. Oula. En fait, c'était un temps d'adoration. Du Saint-Sacrement. Et puis, il y avait des scouts d'Europe qui étaient à genoux dans l'adoration. Il y avait les moniales qui étaient dans l'adoration. Et elles ont commencé à entonner « Prosternez-vous devant votre roi ». Un vieux chant, enfin un vieux chant, des années 80. Et là, je me suis retrouvée propulsée à genoux, en larmes, tout ça, saisie dans l'adoration. Et on était absolument un même cœur. Les moniales, les scouts d'Europe et moi, bonne évangélique, d'un même cœur. Et c'était une unité extraordinaire, une unité de l'esprit. Une profondeur d'adoration. C'était... incroyable. Et on a des temps nouveaux. Vous voyez, dans l'adoration, quelles que soient nos divergences théologiques, parce que bien sûr, il y avait des statues de Marie partout et tout ça, quelles que soient nos divergences théologiques, il y a un cœur brûlant d'amour pour Jésus. Ça, je peux vous garantir. Ces moniales, elles ont ce cœur-là. Un cœur consacré, un cœur qui veut chercher Dieu jusqu'au bout, un cœur désireux d'aller dans la folie de Dieu, de lâcher tout pour venir se mettre dans ces hauteurs loin de tout. Là. C'est cette folie de Dieu. Et Fabienne Ponce nous rappelait que la terre de France est d'une terre de mystiques, de prophètes, de fous, quoi. Donc, mais la grande nouveauté, c'est qu'on est un. Il n'y a plus les catholiques d'un côté, les évangéliques de l'autre, protestants de l'autre. On commence tout doucement à être un. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça veut dire que l'ère des trois seigneurs qui avaient investi la table et puis les autres ne pouvaient même pas y accéder, c'est fini. Ça veut dire qu'on peut offrir aux autres les mets succulents. On est unis. Et il y a quelque chose, vous savez, pour ceux qui sont d'origine catholique comme moi, c'est comme si en nous, il y a quelque chose qui est réconcilié avec nous-mêmes. C'est comme quand, pour ceux qui étaient là à Saint-Léger, vous savez, en décembre, on était dans cette église romane, et d'être là dans cette église romane avec une vraie adoration, une vraie louange, vous vous rappelez hein, ce qui était, c'est comme si cette église de Saint-Léger, elle reprend vie, elle reprend sa véritable destination. Un peuple uni, le peuple de Dieu de Guebwiller qui est un. On est à Saint-Léger, qui est l'église la plus ancienne de Guebwiller, l'église romane, celle qui a tout le temps entendu des louanges et des prières à Dieu. Et on est un dans Guebwiller pour élever le nom de Dieu. Et ça, c'est ça que Dieu veut pour la France. On est un. Alors ça commence bien sûr par, dans notre propre vie, rejeter totalement le couteau de pierre. Sur nous-mêmes déjà, toutes les paroles négatives qu'on dit sur soi, et bien sûr sur les autres. Souvent, c'est soi-même qu'on n'aime pas et du coup, on juge, on condamne, on accuse les autres. Et je crois qu'il y a vraiment une... Vous savez, Pierre Dalmartin a vraiment parlé de la circoncision du cœur. Circoncire, ça veut dire enlever de la chair. Enlever tout ce qui est de la chair. Et rappelez-vous aussi cet extraordinaire message, ceux qui ne l'ont pas entendu, il faut vraiment l'écouter, sur Amalek. Amalek, vous rappelez, c'était Pedro, je crois, un Mexicain qui avait donné ce message. Amalek, c'est la chair. Son descendant, c'est Aman, vous vous rappelez? Et Aman, il a été pendu au bois, par ordre d'Esther. Donc, enfin, du roi plutôt, sur incitation d'Esther. Mais donc, c'est Jésus qui a crucifié la chair. Ça, c'est fait. C'est le travail de Jésus. Ça, c'est fait. Mais, les 10 fils d'Aman, qui c'est qui les a cloués à la potence? C'est pas le roi. Les 10 fils d'Aman, ça représente les œuvres de la chair. Hein. Celle-là, c'est nous. C'est notre boulot à nous. Et on va prendre, pour finir, Colossiens 3, si tu peux prendre Colossiens 3. Parce qu'on voit bien là le travail que nous, on a à faire, la collaboration que nous, on a à faire. Donc, verset 3. Ouais, non. verset 3. Alors c'est bizarre parce qu'il y a verset 3, Colossiens 3, 3. Vous êtes mort, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes mort, votre vie est cachée avec Christ. Donc on est mort. Et après, verset 5, faites donc mourir les membres. Donc vous êtes mort, Aman est cloué à la croix, c'est fait. Faites donc mourir les membres. Ça, c'est les fils d'Aman, les œuvres de la chair. Et dans ces œuvres de la chair, vous avez tout ce qui est accusation, jugement, condamnation, enfin tout ce bazar-là. Hein. L'impudicité, l'impureté. Ça, c'est notre boulot à nous. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de faire monter à la lumière. Quand on vient à sa lumière, il nous fait monter. C'est comme les vitres sales, on les voit que à la lumière qu'elles sont sales. Donc, vous voyez, il fait monter à la lumière toutes les impuretés, tout ce qui ne va pas dans nos vies, tout ce qui n'est pas aligné avec la pensée de Dieu. Et après, il faut traiter. On collabore avec le Saint-Esprit, on traite et on fait mourir. Et on pend les fils d'Aman au bois. Ça, c'est notre boulot à nous. Et après, Colossiens toujours, on va continuer. 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous avez dépouillé la vieille nature. C'est notre boulot à nous. Avec ces pratiques, verset 10, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance. Oui, c'est pas tout à fait la même version. Pour être l'image de son Créateur. On est appelé à être l'image du Père. L'appel de notre vie, c'est pas seulement être des bons fils, si vous voulez, c'est être à l'image du Père. Et je vous invite à relire, là, ça m'a fait tout drôle cette semaine, j'ai relu la parabole de Luc 15 avec la mentalité du Père. Dieu nous appelle à être des pères. Un père, qu'est-ce qu'il fait? Il va confronter l'ingratitude, celle du fils prodigue, et il va confronter tout le système d'accusation et de jugement, c'est celui du fils cadet. Le père, on est appelé à être des pères, on va confronter ça. Mais le père, vous le voyez dans Luc 15, c'est extraordinaire, il garde son cœur, il reste dans la douceur, dans la bénédiction, dans l'amour, alors qu'il confronte l'ingratitude et le système d'accusation. C'est vraiment des systèmes, les pensées d'accusation. Le fils cadet, il est complètement dans ce système-là. Et le père, il confronte ça et il garde son cœur. Et nous, on est appelés à confronter ces genres de réactions et à garder nos cœurs, à manifester la perfection du Père. On se renouvelle parce que c'est un processus à l'image du Père, du Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On continue verset 12. Voilà. Revêtez-vous. Voyez que c'est pas Dieu vous revêt automatiquement, magiquement, enfin non pas magiquement, mais automatiquement, non. Revêtez-vous, ça veut dire que c'est une collaboration à avoir avec le Saint-Esprit. Revêtez-vous d'ardente bonté, bienveillance, humilité, douceur, patience. On continue, Émilie. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir, qui vous aime, revêtez-vous. Donc, supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien. Le lien. Revêtez-vous de l'amour. Alors le lien, en grec, c'est synesmos. Et figurez-vous que c'est le même mot qui est utilisé dans Colossiens 2, verset 19. On s'attache au Colossiens 2, 19. On s'attache au chef par qui tout le corps soutenu, rendu cohérent par les jointures et les articulations. Les articulations, les ligaments, en fait, c'est un des deux mots, c'est synesmos, c'est le même mot. L'amour, c'est cette articulation entre nous pour arriver à la stature de Christ. Et vous remarquez, en grec, syn, c'est exactement l'opposé du di, de diable. Le sun, c'est ensemble. Dit, ça divise. Sun, ça relie. Donc, on est dans le sunesmos, le ensemble, ligament, ce qui nous relie les uns aux autres. Et ensemble, on croit. Et ça, c'est l'appel de Josué. Ensemble, dans l'amour, on croit et on donne aussi ces mets excellents. On les goûte pour nous et on les amène aux autres. Et donc, pour terminer, je voulais proposer à mes explorateurs et à mes seigneurs. Alors, les seigneurs, je propose une interprétation. Les trois seigneurs, on va dire que c'est protestant, catholique, évangélique, ça vous va? Restauré, réuni, avec toutes les sous-divisions. Hein. Ils sont plus poussiéreux, barbus, avec des longues barbes qui datent de je ne sais pas quand. Ils sont toujours là, mes seigneurs. Là. Voilà, ils viennent et, on va le dire comme un acte prophétique, ils prennent les mets succulents de la table du roi. Alors bon, ces mets, c'est des mots. Pour l'instant, c'est des mots, mais derrière chaque mot, il y a quelque chose d'énorme. Hein. Donc, ils vont prendre ces mets. Alors, les explorateurs et les seigneurs, vous venez. Les seigneurs, ça y est, ils sont réveillés, c'est bon. Et ils vont prendre ces mots pour eux, ces mots. Les mots, ils les prennent. Oui, en plus, mes mots, ça veut dire qu'il faut se rappeler. Donc, ils prennent ces mets. Vous le prenez chacun un papier pour vous et vous le donnez à quelqu'un de l'Assemblée en le bénissant. Et ça, on va prophétiser que c'est la nouvelle, l'Église renouvelée, qui unit, prend les mets succulents de la table du roi, les prend pour elle, mais aussi va les donner au monde. Ça vous va comme interprétation? Et vous priez pour chacun à qui vous donnez le mot. Hein, d'accord? Il y en a plein, hein? Voilà. Et vous priez, vous bénissez, tout ça, en fonction du mot que vous avez. Ben oui, prenez-en plein. Hein. Mais il y en a plein encore. Alors, allez prier pour les gens en fonction du mot. Vous les bénissez en fonction du mot qui est sur le papier. Hein. Prenez-en plusieurs. Hein. Allez-y, dispersez-vous. Bon, je crois qu'ils n'y arriveront pas. Il faudra peut-être les aider, là, parce qu'il n'y a pas assez. Hein. Ils ne sont pas assez nombreux. D'autres explorateurs. Hey, Salomé, tu viens. Hein. Quand même, tu es la première concernée. Hein. Bon, s'il y en a d'autres qui veulent aider, parce que j'ai encore plein de mots qui restent. Non, tu... En fonction du mot, tu bénis la personne, en fonction du mot qui est sur le... Voilà, c'est la mentalité de bénédiction. On laisse tomber la mentalité d'accusation et on bénit avec la bénédiction. Il y en a qui veulent m'aider, là, parce que... Il faut que tout parte, hein. Ouais, vas-y. Et tu bénis, hein. Voilà, tu donnes le mot à quelqu'un, ouais, et après tu le bénis, d'accord, hein? Voilà, voilà. Vas-y. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. Vito? Ah oui, j'avais aussi. Alors, j'avais aussi peut-être un appel par rapport à ça. Il y en a peut-être parmi vous qui ont été victimes du couteau de pierre. Vous voyez, victimes du couteau de pierre, ça veut dire qu'on a lancé sur eux des paroles qui les ont terriblement blessés. Ça, c'est une première facette. Ils ont été victimes du couteau de pierre. Et puis, il peut y en avoir d'autres qui sentent qu'ils sont encore dans ce schéma, qui ont beaucoup qui se jugent eux-mêmes, qui se condamnent eux-mêmes, ou les autres, qui sont dans ce schéma difficile. Et ils voudraient vraiment sortir de ce schéma. Et puis, il y en a d'autres qui peut-être, n'arrivent pas à aller vers la table des mets succulents. Ils pensent qu'ils ne sont pas dignes, ou ils ont des craintes, ou ils n'ont pas la foi. Enfin, tout ce qui empêche d'accéder à la table. Alors, s'il vous plaît, demandez la prière. Restez pas avec ça. Parce que c'est vraiment un temps où Dieu veut que tout le monde accède à la table. Tout le monde. Donc, si vous êtes dans ces cas de figure, bah, demandez la prière. Alors, Vito, peut-être, tu expliques. Hein, pour demander la prière pour le nouveau pastoral.
30 secondes. Je propose que déjà on se mette, on a tous fait une prière parce qu'on a tous été blessés à un moment donné ou à un autre. On a tous reçu une blessure. Et je pense qu'on va juste se lever et soyons honnêtes, à un moment donné on a reçu des mots qui nous ont blessés. Ou un acte nous a blessés. Ou quelque chose qui n'a pas été fait nous a blessés. Je propose juste qu'on. Si vous êtes fatigué, vous pouvez rester assis. Je veux dire, je ne vous oblige pas à vous lever, hein. Voilà. Jésus. Ok. Peut-être simplement vous laisser ce souvenir être là. On ne peut pas tout traiter. Et on peut travailler après un petit groupe. Mais s'il y a un souvenir spécifique qui maintenant vient, prenez ce souvenir. Juste inviter le Saint-Esprit à faire ce travail. Saint-Esprit, merci de venir maintenant toucher et révéler. De venir au fond du cœur, commencer à montrer là où ça a fait mal. Dans la mémoire, dans les souvenirs. Jésus. Amen. Alors votre souffrance est légitime. Si quelqu'un vous a fait mal ou ne vous a pas fait ce que vous attendiez, votre souffrance peut être légitime. Et alors que vous allez pardonner, on ne dit pas que votre souffrance est illégitime. Ce n'est pas ce qui est dit là maintenant. Simplement, ça veut dire je veux sortir de ma prison où j'ai mal. Amen, papa. Papa, je veux pardonner pour la douleur que j'ai ressentie. Je veux pardonner. Et je cloue à la croix la douleur que j'ai sentie. Si vous voulez le répéter après moi, vous pouvez le répéter, ou bien simplement ou à voix basse, ou simplement vous laissez vous guider. Je cloue à la croix la douleur que j'ai ressentie ce jour-là. Je cloue à la croix la colère qui est montée. Je cloue à la croix la peur qui m'a envahi, qui est venue remplir mon âme. Je cloue à la croix l'amertume qui est rentrée dans mes entrailles. Je cloue à la croix le rejet que j'ai ressenti. Je cloue à la croix ce sentiment d'abandon aussi. Je cloue à croix ces paroles de condamnation. Et maintenant, je brise tout agrément que j'ai fait avec cette amertume ou cette colère. Je brise tous ces agréments conscients ou inconscients. Je brise l'agrément avec l'amertume qui m'a nourri. Je brise l'agrément avec ces paroles de condamnation et je m'en repens. Papa, je pense simplement de jeter au loin de moi tout cela, toutes ces mauvaises choses, toute cette amertume, cette colère. Et je dis, colère, vous partez dans le nom de Jésus. Amertume, rejet, dehors dans le nom de Jésus. Sentiment d'abandon, dehors dans le nom de Jésus. Et papa, on ouvre les bras, on ouvre nos cœurs, alors que ces douleurs partent, pour recevoir ce que tu as nous donné ce matin. Vous êtes à des endroits différents, chacun de vous, et Dieu est en train de vous remplir individuellement, là où vous êtes. Et alors qu'il fait cela, c'est toute une position par rapport à Josué qui est prise. Et après, ça va couler sur la nation. Jésus, Jésus. Amen. Amen, amen. Et on va faire encore une autre étape. Je vous laisse 30 secondes recevoir peut-être. Recevez, recevez ce que Dieu est en train de vous donner. Prenez-le, saisissez-en. Nourrissez votre âme, votre esprit de ce que Dieu vous donne maintenant. Jésus, Jésus. Et papa, on veut aussi se repentir pour toute parole de condamnation qu'on a donnée, toute parole de jugement. Papa, je m'en repens pour mon cœur dur, pour l'amertume que j'ai laissée rentrer en moi et qui est ressortie avec des paroles d'amertume. Je me repens pour la colère qui est entrée en moi et j'ai laissé la colère sortir de moi. Je me repens, papa, pour une parole de jugement. Je me repens pour mes... Je me suis cru meilleur que les autres. J'ai condamné. Ou j'ai refusé le travail de ta grâce, papa. Je me repens de cela. Et je place la croix de Jésus entre moi et toutes ces choses. J'y renonce définitivement. Et papa, quand demain j'aurai de nouveau mal, aide-moi à plus accepter de marcher avec ces choses-là. Aide-moi à marcher dans la grâce. Aide-moi à marcher dans la transparence et dans la paix. Aide-moi à marcher dans la bonté et la miséricorde, papa. Aide-moi, papa. On a besoin de toi. C'est un cri au secours. On ne sait pas. On a besoin désespérément que tu nous montres comment marcher. On a besoin, papa. Jésus, on veut marcher dans la bonté, dans la bénédiction. Apprends-nous, papa. Apprends-nous. Jésus, il est midi et demi et si certains ont besoin qu'on prie avec eux, peut-être venez et on priera pour vous, pour libérer simplement ces choses qui remontent. Et puis encore des versets que Anne a préparés. Recevez ces cadeaux comme des bénédictions sur vos vies. On est en train de rentrer dans un temps où on va apprendre à bénir et plus à condamner un jugement. C'est un nouveau temps aujourd'hui. Saisissez-vous de cette espérance et marchez dans la bénédiction. Marchez dans la bénédiction. Marchez, marchez dans la bénédiction. Et je déclare sur vos vies que les bénédictions de l'Éternel vont se multiplier, que vous allez prospérer à tous égards dans la bénédiction, qui aura la bénédiction financière, qui aura la bénédiction sur vos âmes, la bénédiction sur vos émotions, la bénédiction dans votre santé, la bénédiction dans vos familles, dans vos relations familiales, la bénédiction sur vos lieux de travail, la bénédiction sur le lieu que vous habitez. Alléluia. La bénédiction là où vous allez en vacances. Jésus, la bénédiction va vous poursuivre même dans la rue. Même quand vous allez faire les courses, vous allez marcher dans la bénédiction. La bénédiction qui vous accompagne jour après jour, heure après heure, minute après minute. La bénédiction dans vos familles, dans vos couples. La bénédiction entre eux, les parents et les enfants et les parents. La bénédiction dans les conjoints. Je vous bénis dans le nom de Jésus, Père, et du Père. Alléluia. Amen. Voilà, je vous libère tranquillement. C'est ça.
Dans l'enseignement de Anne, au niveau de Messi Bochet, dans la loi juive, celui qui avait un membre comme lui avait, ne pouvait pas entrer dans le temple pour être sacrificateur. Et j'ai cette conviction qu'il y a beaucoup parmi nous qui n'osent pas venir dans la présence de Dieu parce qu'ils se sentent un peu comme cet homme. Mais je veux te dire que le Seigneur, il est venu vers nous, vers toi, et il t'a restauré en tant que sacrificateur pour Dieu le Père. Et que tu n'as plus besoin de te sentir indigne de venir dans sa présence.
À cause qui vient d'être annoncé, on va juste dire, je cloue la croix maintenant, tout sentiment d'indignité. Je cloue à la croix ces mensonges que j'ai acceptés et dans lesquels j'ai marché, où je me suis dit, mais regarde-toi, tu ne vaux rien, tu es nul. Je cloue à la croix ces sentiments et ces paroles que j'ai même moi-même prononcées sur moi-même. Je brise tout agrément avec ces sentiments et ces paroles. Je les brise dans le nom de Jésus. Amen. Et je me repens à fonctionner avec ça. Je dis, papa, j'ai tout loin de moi maintenant. Tout sentiment d'indignité. Toutes ces paroles négatives sur ma propre vie, sur celle des autres. Tout ce regard sale que je me projette sur moi-même. J'ai tout loin ces yeux. Et je veux recevoir tes yeux maintenant. Tes yeux, papa. Je les reçois, je les prends. Je crois que Dieu est vraiment en train de changer les regards. Maintenant, il y a des choses qui sont en train de se changer au niveau du regard. Et ça va être quelque chose de différent quand tu vas te regarder. Tu vas te voir complètement différemment. Là où tu as marché dans la grisaille, tu vas commencer à voir la lumière. Et tu vas dire, mais c'est moi ça, c'est moi. Tu vas te voir avec une nouvelle beauté. Alléluia. Jésus, Jésus.
Rick Joyner a annoncé que le prochain grand mouvement de Dieu allait venir par les francophones, au travers du message de Jean. Aimez le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Notre héritage en tant que France est révéler aux nations l'amour du Père. C'est l'onction de Jean, l'apôtre Jean. Et là, Dieu prépare, est en train de nous préparer pour cette mission, révéler l'amour du Père dans la communion fraternelle. Et vendredi soir au tabernacle, il y a eu un moment très fort. Il y avait Pascal qui tenait la carte de France, vous savez, cette danseuse qui danse. C'est une danseuse, elle a vécu la vie, elle a fait plein de choses pas possibles dans sa vie, mais elle est complètement régénérée par la grâce et maintenant elle danse. Et il y avait cette merveilleuse petite fille qui dansait la grâce. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'image du nénuphar sur des eaux boueuses, les eaux boueuses de notre histoire de France. Il y a une extraordinaire église qui se lève. L'église de France sera très belle. L'épouse que je suscite, dit le Seigneur, elle dansera sur l'injustice, sur l'iniquité de l'histoire, elle sera un vrai reflet de ma grâce et elle renverra mon image sur la terre.
Ce que je voudrais vous partager, c'est que Janet, à un moment donné, elle a saisi le drapeau de France, elle était au milieu, et, et les gestes qu'elle faisait, c'était quelque chose comme ça. Et Émilie, en fait, dans la louange, elle a parlé d'un tsunami d'amour. Et Janet, alors que tu saisissais ça, c'était comme une tornade. Comme une tornade qui venait comme ça. Et en fait, cette tornade, ça se transformait en tsunami. Ouh, et puis c'était un tsunami d'amour. Comme a dit Émilie. Et en fait, après, la bannière de la France, c'était plus la même. Et moi, je ne regardais plus du tout la bannière de la France de la même manière. Je ne regardais plus notre gouvernement de la même manière. Je ne regardais plus le mariage pour tous. Je ne regardais plus. C'était vraiment devenu la bannière de Jésus. Et à travers ce regard que j'avais sur la bannière, c'était aussi un autre regard par rapport à moi. C'était un autre regard, comme tu l'as dit, Vito, par rapport à l'église Josué. C'était un autre regard par rapport à mes frères et par rapport à mes sœurs. Et on est vraiment appelés en tant que Français à distiller l'amour de Dieu. Et je vous rappelle ces paroles qui ont été données sur notre assemblée, que c'est à l'amour qu'on aura les uns avec les autres, que les autres reconnaîtront qu'on est le peuple de Dieu. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient. Alors vous étonnez pas d'être secoué, de pleurer, de dire « mais j'avais jamais vu ça, jamais ». Mais le drapeau de la France, il est différent maintenant, il est vraiment différent.
Et c'est vrai que vendredi soir, j'étais particulièrement fier de Josué. Je me suis dit, quand j'ai vu cette petite fille danser pendant une heure, j'ai dit, mais dans quelle église cette petite fille aurait pu faire ça? Dans quelle église? On ne la connaissait même pas, elle est peut-être venue deux fois ici. Elle a pu danser là pendant une heure. Et elle était encadrée, elle a été... Simplement, on lui a donné... Alors, c'est vrai que Josué n'est pas parfaite dans ses relations. Elle a des manquements, elle a des difficultés. Elle vit des choses difficiles, mais dans quelle église une petite fille aurait pu danser comme ça? Quelle église soutient une école comme Josué et continuer à chercher le royaume des cieux? C'était juste, waouh, plus papa, on a besoin de voir comme toi tu nous vois, pas comme nous on se voit. Et en même temps, on a besoin d'apprendre à se guérir et à se construire. On ne veut pas, quand je dis ça, rester dans nos ornières, en disant tout est parfait, on veut rester dans l'ornière. On veut avancer vers le mieux. L'objectif étant pas de se glorifier de ce que nous avons, parce que finalement ce que nous avons c'est Dieu qui nous le donne, c'est d'avancer vers une autre gloire, transformer de gloire en gloire. Et tout ce qui ne va pas, il faut aussi le confronter, comme a dit Anne. On veut confronter ce qui ne va pas pour aller de l'avant, pas pour se condamner.